Bon, super, je suis content d'être avec vous. J'espère que vous aussi. Vous êtes content d'être entre vous et d'être avec moi? Ça, pas sûr. Bon, j'ai du succès ce matin. J'espère que je vais avoir un peu plus de succès avec vous juste après, puisque je suis tellement content d'être avec vous ce matin que pour commencer, j'avais envie de faire un petit jeu. Un petit jeu ensemble. Alors, tout le monde ne va pas participer, mais pour éviter un grand moment de solitude, j'aurais au moins besoin de 10 personnes. 10 personnes, je vous rassure, je vais pas vous demander de faire des roulades, ou comme Simon la dernière fois, parce qu'il va pas se lever, je lui avais demandé, il était venu, tu te souviens, tu t'étais jeté dans mes bras, en arrière. Non, je vous rassure, rien de tout ça. Je demanderais juste s'il y a 10 personnes, minimum, qui pouvaient juste se mettre debout à leur place. Vous allez voir, ça va pas durer longtemps. Merci Nadège. Merci Rita. Oh là là, hey. Bon, il y en a quelques-uns. Allez, on est pas mal. Merci Tounich, vous êtes bon, vous êtes bon. Merci. On est combien là? 3 9 avec moi 10? Ben nickel, c'est ce qu'il faut. Alors, ce petit jeu que je vous propose, il est très simple. Rita, en plus, elle le connaît déjà. On l'avait fait, souviens-toi, au groupe de maison. Le but va être simple. À mon top départ, je vais dire 1. D'accord? Et le but du jeu va être d'arriver à 10. D'accord? Chacun d'entre vous va dire un nombre que vous ne connaissez pas à l'avance parce qu'on ne va pas se concerter. Le but, c'est de dire un nombre et de s'asseoir. Donc notre but, c'est d'arriver à 10 sans que deux personnes ne disent un nombre en même temps. Le même nombre en même temps. Un chiffre, bien sûr. Pardon, oui, prof de maths en plus. Un chiffre. D'accord? On y va? On tente? On y va? Moi, je commence par le 1. Je ne vais pas m'asseoir, mais je vous laisse vous asseoir dès que vous en dites 1. C'est parti. 1. Ah mince, et voilà, il y en a deux qui disent déjà 3 en même temps. On va retenter, je vous assure, c'est normal. On va le faire en 3 essais, on s'en fait un deuxième et un troisième. Allez, soyons fous, parce qu'on a envie de s'amuser ce matin, c'est un jeu trop marrant. On y va? 1, prenez votre temps, soyez patients. 1. Alors, il faut compter jusqu'à 10, de 1 jusqu'à 10, hein, dans l'ordre. Hein. Là, j'étais surpris, là. On reprend. On le coupera, celui-là, on le coupera. Il faut compter dans l'ordre. Parce que là, après, j'étais perdu. Il y a le 8, il y a le 4, si tout est passé. Faisons dans l'ordre. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Il faut compter dans l'ordre, de 1 jusqu'à 10. Bon, c'est pas grave. Ça n'a pas été une réussite, mais c'est pas grave. Asseyez-vous, il n'y a pas de souci. Alors, je vous assure, si ce n'est pas une réussite, c'est peut-être parce que j'ai eu du mal à me faire comprendre, mais c'est aussi surtout peut-être parce que ce n'est pas un jeu simple. En fait, ce jeu, je l'ai découvert au début septembre, à la rentrée des classes. C'est un collègue qui proposait de le faire avec une de mes classes, dans un but. Premier but, en fait, ils avaient du mal à s'écouter déjà les uns les autres, et c'est un jeu où il faut apprendre à s'écouter l'un l'autre, d'accord ? Parce que sinon, on dit facilement les mêmes nombres. Et c'est un jeu surtout où il faut beaucoup de patience. Parce que vous voyez déjà là, en 2 minutes, on s'est vite agacé pour y arriver. Pensez que mes élèves, bon, ils sont 24, pour arriver de 1 jusqu'à 24, en rajoutant les profs, on était à 26, ils ont mis 1h30. À la fin, au bout déjà d'une demi-heure, ils étaient en train de s'insulter les uns les autres. Pourquoi tu comprends pas ? Pourquoi tu... Vous imaginez. Et ce jeu, on l'a fait au petit groupe. C'est pour ça que Rita connaissait, maman aussi, elle l'a fait. Tounich, on l'avait fait. Hein. Et on avait réussi à le faire. Je crois qu'en 3 essais, on l'avait fait. Hein. Bon, on était 8-9, un peu comme ce matin en fait. Mais on avait réussi. On pourra retenter plus tard. Mais tout ça, si je voulais faire ce petit jeu avec vous ce matin, c'est pour me faire penser au thème de ce que je vais partager. Je voulais parler avec vous de la patience. Une de ces vertus que ce jeu met en avant, la patience. Parce que je ne sais pas vous, mais qu'est-ce que c'est dur d'être patient. Hein, c'est dur d'être patient. C'est dur, je vous rassure, depuis la nuit des temps, comme on dit. Ça a toujours été dur, mais ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Et on l'a fait récemment, on est allé dans un parc d'attractions en famille et on a dû faire la queue aux attractions. Ah, je peux vous dire, je me souviens quand on était petit, quand on est enfant, ça va, on patiente, on sait ce qu'il y a au bout. Et encore, au bout de toute la journée. Mais quand on est adulte, on arrive, on voit 1h30 d'attente. Les enfants, je vais y aller. Donc on a là, et qu'est-ce qui se passe dans les files d'attente comme ça? Les gens, ils s'agacent vite. Il y a ceux, comme mon épouse, qui essayent de voir comment on peut gruger la queue. Je rigole, je t'embête. Non. Et puis, il y a ceux qui s'énervent. Oh, ils avaient dit 1h30, ça fait déjà 1h, on n'a quasiment pas avancé. C'est quoi ça? Ça s'énerve, ça s'agace. Ça en devient même agaçant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est vraiment un temps de patience. Et dans ce cas-là, les gens ne prennent même plus le temps de discuter entre eux. Pour combler cette patience, pour éviter de devoir être patient et d'attendre, ils sortent l'arme magique, le téléphone. Et ils sont tous là sur leur téléphone. Alors que avant, même quand on faisait la queue pour aller à la boulangerie, on discutait avec les gens quand il fallait attendre un petit peu. Non, maintenant, tout le monde est sur son téléphone et patiente. C'est dur de patienter. Et si on pouvait tout faire pour éviter de patienter, on le ferait. Et finalement, le monde qui nous entoure fait tout pour qu'on n'ait plus à patienter. Regardez autour de vous, on peut tout avoir tout de suite, le plus rapidement possible. Tout est fait pour qu'on n'ait plus à patienter. Et on le voit dans ces exemples basiques de la vie de tous les jours que ce n'est pas facile. Mais alors, je pense que chacun d'entre nous a pu le tester. Quand il faut patienter, quand on vit une période difficile, quand on vit une épreuve et où notre patience est justement mise à l'épreuve, c'est encore plus difficile. Et si à ce moment-là, il existait un remède, comme un petit jeu, bon, qui n'a pas trop fonctionné, mais ce n'est pas grave, ou un téléphone portable pour réussir à faire que ce temps de patience passe beaucoup plus vite, on le ferait et on l'activerait tout immédiatement. Or, ce n'est pas toujours le cas. Récemment, je parlais avec un ami, Edouard, je le cite comme ça, je pourrais lui envoyer la vidéo et il rigolera. On parlait de foot, bon, ça n'a rien à voir, mais si, il fallait patienter, parce que Lille, ce n'est pas terrible en début de saison. Donc il me dit, patiente mon ami, tu verras. Il dit, parce que la patience est la mère de toutes les vertus. Il m'a sorti ce beau dicton, c'est vrai, qu'on entend dans le monde. Et je me suis dit, c'est vrai, il n'est pas bête son dicton, mais moi, j'ai mon verset. Parce qu'il y a beaucoup de versets qui parlent de la patience dans la Bible. Et j'ai ce verset qui est pas mal, dans Hébreux 10, 36, qui dit, vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. Et j'aime ce verset parce qu'ici, il révèle beaucoup de choses. Et la première chose qu'il révèle surtout, c'est que pour recevoir les choses promises par Dieu, même dans nos vies, il y a comme une condition nécessaire et suffisante. Il faut qu'on passe par de la patience. Comme si Dieu veut que nous passions des fois par des temps où notre patience est mise à l'épreuve pour recevoir ses promesses. Il ne suffit pas, même s'il faut le faire, de faire sa volonté, mais il faut obligatoirement de la patience. Et on va peut-être tous se reconnaître quand je dis ça, mais qui n'a jamais prié en disant « Seigneur, tu vois, en ce moment, c'est dur, ma patience a atteint des limites, réponds Seigneur, fais que cette chose-là, j'ai plus là à l'attendre, donne-la-moi, pourtant tu le vois Seigneur, je viens tous les dimanches à l'église. Mieux, je vais même au petit groupe la semaine, je donne même ma dîme, et pourtant je ne l'ai pas. Pourquoi Seigneur ? Et si finalement, ces temps des fois de patience, où notre patience est mise à l'épreuve, étaient des temps voulus par Dieu ? Par Dieu pour que nous puissions recevoir les choses promises. Amen. C'est pas facile de le dire, mais vous allez voir que c'est en effet le cas. J'ai pris une prière un peu grossière, mais le titre de mon message, vous l'aurez compris ce matin, est la patience, mais plus particulièrement la patience dans l'épreuve. Parce que c'est là où on a besoin de réussir à gérer cette patience. Et nous verrons ce matin que Dieu nous donne des petites astuces dans sa Bible pour justement faire en sorte que quand on doit patienter dans l'épreuve, on peut voir ces temps comme des temps avantageux et non des temps d'inconvénients, comme des temps bénéfiques et non des temps de malheur ou difficiles. Et qu'il existe des petites astuces, on verra ça. Alors, comme j'étais dans le thème du jeu ce matin, je vous ai mis patience, vous avez reconnu le jeu du Scrabble, parce que ça sera mon deuxième petit tacle de la matinée pour mon épouse. Moi, la première patience que j'ai quand je joue, j'aime bien la taquiner, hein, c'est ce qu'on dit, c'est quand on joue au Scrabble. Vous n'avez jamais joué au Scrabble? Si, Nadège a déjà joué au Scrabble contre mon épouse. Mais bon, elles sont pareilles, toutes les deux. C'est-à-dire que quand vous jouez au Scrabble, elles mettent 15 minutes à trouver leurs mots. Je peux vous dire que c'est pour ça que je perds à chaque fois. Moi, je perds patience. Du coup, j'ai envie de vite terminer le jeu. Non, mais c'est vrai. Ici, la patience, c'est quelque chose d'important. Et je voulais trouver vraiment un passage dans la Bible qui évoque cette notion de patience, et notamment de patience dans l'épreuve. Et il y en a plein. Déjà, c'est la bonne nouvelle. Si vous vivez des temps où votre patience est mise à l'épreuve, vous n'êtes pas les seuls. Et j'aurais pu prendre par exemple le peuple d'Israël, qui en sortant d'Égypte a dû attendre 40 ans dans le désert, vous imaginez, avant d'atteindre la terre promise. J'aurais pu prendre Sarah, qui a attendu 80 ans avant d'avoir l'enfant promis par Dieu. J'aurais pu prendre Noé, qui a mis presque aussi 80 ans pour construire son arche. Vous imaginez, entre le temps où Dieu lui annonce 80 ans s'est passé et le déluge. Waouh, c'est costaud. Mais j'ai voulu prendre ici un autre exemple qu'on utilise, une histoire connue de Jésus, qu'on n'utilise peut-être pas forcément pour ce sujet-là, mais qui peut révéler pas mal de choses. J'ai voulu prendre le passage où Jésus, juste avant son ministère, passe 40 jours dans le désert. Et vous allez voir en quoi ici c'est assez intéressant. Je vous propose de lire ensemble et on y revient juste après. Donc on trouve ce passage dans Luc 4, versets 1 à 15, pour ceux qui veulent le prendre en même temps, sinon on va le lire ensemble ici. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seulement. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toute forme de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Passage que vous connaissez, peut-être histoire que vous connaissez, mais qui ici, vous allez voir, nous apprend beaucoup de choses déjà sur la patience dans l'épreuve. Parce que Jésus ici vit une épreuve, il se retrouve dans le désert à jeûner, ce n'est pas simple. Hein, on y reviendra après, et sa patience ici est mise à l'épreuve. En effet, cette histoire nous montre déjà trois points clés que l'on peut retenir. Vous voyez, j'ai sorti trois petites clés, j'ai cherché sur Google, de cette histoire. Le premier, c'est que la patience dans l'épreuve, c'est pas facile à l'entendre, surtout quand on le vit, mais je pense que ici, ce passage nous le montre, est souvent voulu par Dieu. Et on peut du coup se demander pourquoi. Est-ce que Dieu serait soudainement sadomasochiste, prendrait plaisir à nous faire du mal? Non, je ne crois pas. Ici, en tout cas, on voit clairement que si Jésus se retrouve dans le désert, c'est voulu de Dieu. Parce qu'au début, dès le verset 1, il est bien dit que Jésus, c'est dans l'esprit qu'il fut conduit dans le désert. Donc c'est l'esprit qui le pousse à aller là, c'est Dieu qui l'emmène dans ce désert, dans cette épreuve, où sa patience va être mise à l'épreuve. Alors on peut se dire, mais pourquoi? Alors que Jésus, il devait être prêt, il faut dire ce qui est. Il devait être déjà, au niveau spirituel, pas mal, il devait être prêt à servir. Pourquoi il devait passer par cela avant son ministère? Eh bien simplement parce que Dieu, à travers cette épreuve et où sa patience à Jésus allait être mise à l'épreuve, Dieu voulait lui faire passer un palier. Et on le voit, au début, il est dit que Jésus, au verset 1, est rempli de l'Esprit Saint. Regardez après cette période, au verset 14, il est dit que Jésus est cette fois dans la puissance de l'Esprit. Il y a comme un cap qui est passé. Donc Jésus, oui, Dieu peut faire en sorte que nous passions par des épreuves de patience dans l'épreuve, justement. Pourquoi ? Pour nous rendre plus forts. Et ici, c'est un peu ce qui est arrivé, pour reprendre un exemple que j'ai donné au début au peuple d'Israël. Pourquoi Dieu a voulu que le peuple d'Israël soit 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise ? Parce que certainement qu'il n'était pas prêt à entrer dans la terre promise. Et que finalement, à l'issue de cette période, il était plus apte à le faire. Et moi, personnellement, j'ai pu expérimenter ça aussi. En 2016, on avait eu des soucis à la maison. Ça me tiraillait tellement l'esprit que j'étais pas bien. Je me mettais à genoux dans ma salle de cours aux intercours et je priais. Je dis, Seigneur, pourquoi tu me fais vivre ça? Je ne comprends pas. Mets fin tout de suite. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et avec le recul, parce que c'est souvent avec le recul qu'on dit ça, je me dis, waouh, Seigneur, en fait, cette période, tu m'as appris tellement de choses. Et notamment sur la patience, des choses utiles qu'il m'allait l'être utile juste ensuite, puisque après cette épreuve, justement, hasard du calendrier ou pas, mais Dieu, avec Dieu, il n'y a pas de hasard, c'est à partir de ce moment-là où j'ai repris la louange, où j'ai commencé à prêcher, où on m'a proposé la responsabilité des petits groupes, et je me dis, waouh, cette période-là, elle m'a appris énormément de choses qui me sont utiles encore aujourd'hui. Amen. La deuxième chose que nous montre cette histoire, c'est que la patience dans l'épreuve, elle dure souvent trop longtemps. Je pense qu'on l'a tous expérimenté. Mais on peut être rassuré, c'est quand c'est long que ça fait la différence. Ici, oui, j'ai failli dire quand c'est long que c'est bon. Mais c'est quand c'est long que ça fait la différence. Et c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi ? Ici, on voit que Jésus, il se retrouve donc 40 jours dans le désert. 40 jours dans le désert où il jeûnait. Je vous laisse imaginer un peu le truc. Ça n'a pas dû paraître 40 jours, mais 40 ans. 40 ans. Vous imaginez dans le désert, il fait chaud la journée, on a soif. Il fait froid la nuit, on jeûne, on n'est pas dans le confort. Pff, c'est pire que Koh-Lanta. Sacré Koh-Lanta. Hein. Donc ça a dû paraître 40 ans pour Jésus. Et pourtant, c'est ce qui fait la différence. Parce qu'on voit ici même, c'est incroyable Jésus, comment il est. À la fin, on voit quand ses jours furent passés, il se dit, tiens, je vais peut-être manger. Commençait à avoir faim. Au bout de 40 jours, il commençait à avoir faim. Incroyable. Hein? Mais c'est ce qui fait tout simplement la différence, la longueur du temps. Moi, je me souviens, enfin, avant ça, peut-être pour Noé, on s'imagine Noé, vous avez vu, il a duré 80 ans entre le temps où il a reçu la... Dieu lui a dit, construis une arche, il l'a fait. S'il avait mis que un an pour la faire, peut-être que son arche, elle n'aurait pas été assez solide, peut-être qu'il n'aurait pas eu le temps d'assez bien assimiler les choses pour que quand le déluge vienne, elle tienne avec tous les animaux dedans. Peut-être qu'elle aurait coulé, là, ça aurait été bête quand même. Non, elle a tenu le coup. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 40 jours, alors ça, c'est le prof de maths qui dit ça, hein. 40 ans, 80 ans, 2 fois 40, c'est toujours des multiples de 40, c'est le prof de maths qui parle ici, mais derrière ça, Dieu montre... Quand je me suis un peu renseigné, on dit que c'est un peu le chiffre de l'épreuve, 40. Mais ça prouve qu'il y a une longueur. Quand on vit une épreuve, c'est fait pour durer. Pourquoi c'est fait pour durer? Parce que c'est dans ce cas-là qu'elle a un impact sur notre vie. C'est comme ça qu'on en ressort plus fort. Et on le voit, nous on l'a vécu l'année dernière quand on a dû vendre notre maison. Ça a duré pas si longtemps que ça, mais je peux vous assurer que ça a paru une éternité. Une éternité, ça a duré une semaine. Et puis au début, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit à Pauline, je fais, on va prier. Seigneur, toi qui es Dieu puissant, ramène-nous quelqu'un demain qui achète notre maison. J'étais plein de fois. Le lendemain, personne. Je commence à prier, dire Seigneur. Bon allez, c'était pas pour aujourd'hui, ok, c'est pour demain. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que j'ai vu, c'est avec le recul que je me rends compte comment le Seigneur a travaillé notre cœur. À la fin de notre semaine, juste avant qu'on vende notre maison, ce n'était plus la question Seigneur, pourquoi tu vends pas notre maison? Seigneur, pourquoi on a personne? C'était Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Dans cette situation. Qu'est-ce que tu veux me révéler? Et le fait que ça a duré a fait que, d'un besoin peut-être matériel à la base, je me suis retrouvé à me poser des questions sur ce que Dieu voulait sur ma vie. Incroyable. Plus c'est long, plus c'est efficace. Alléluia. Amen. Troisième chose que nous montre ce passage, c'est que la bonne nouvelle, et ce serait suicidaire de considérer le point 2 sans voir le point 3, la bonne nouvelle malgré tout, c'est que la patience dans l'épreuve, elle a toujours une fin. Elle a toujours une fin. C'est important de le dire, hein, parce que si je m'arrête au deuxième point, vous allez là, vous allez dire, je vais rentrer à la maison, oh, punaise, on est mal barré. Alors ça peut être long, mais ça a toujours une fin. Ici, on voit que Jésus, donc, ça a une fin. Maintenant, ce passage nous montre qu'il y a plusieurs fins possibles. Ici, le diable tente. Et quand on vit dans l'épreuve, des fois, on est prêt à tout pour que notre patience prenne fin. Et ici, le diable propose à Jésus de mettre fin à sa patience. Et en plus, d'une belle manière. En mangeant, en ayant tous les royaumes de la terre. Quelle fin nous décidons de prendre? Est-ce que c'est la fin, F-I-N, pas F-A-I-M, la fin voulu par Dieu ou une fin précipitée par nos choix? Eh oui, ça c'est une bonne question qui peut se poser. Et là, ça me ramène au troisième exemple que je vous ai donné au début d'une personne qui a dû patienter, c'était Sarah pour avoir son enfant. Elle a attendu 80 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait à un moment donné? Dieu lui avait promis qu'elle aurait un enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit à son mari? Bah, va coucher avec cette autre femme. Tant pis, ça n'arrive pas. Et puis finalement, Dieu a quand même tenu sa promesse, elle l'a eue, mais elle a dû avoir l'air bête quand même quand elle est tombée enceinte et se dire mince, j'ai pas écouté Dieu. Est-ce que c'est cette fin-là qu'on veut prendre ou est-ce que c'est la fin que Dieu a vraiment envie de nous donner? Ça nous pose ces questions-là. Moi, je me souviens au début où je vivais avec Pauline, c'était pas simple parce que moi, je croyais en Dieu, Pauline ne croyait pas en Dieu. Je vais pas vous faire un dessin, mais des fois, c'était pas simple à la maison. Et à plusieurs moments, j'avais envie de dire, mais Seigneur, j'avais envie de tout mettre en œuvre. Je dis, Seigneur, que tu puisses faire, je priais, que tu puisses faire que mon épouse te rencontre. Et j'avais tout envie de faire, j'avais envie de dire, Seigneur, je vais lui parler. Vous savez, avec nos propres mots, je vais essayer de lui expliquer, peut-être qu'elle va comprendre qui est Dieu. Et Dieu me disait, non, laisse. Je sais que papa a jeûné aussi pendant une année, pendant cette période-là. Et c'était long. Et puis finalement, il a fallu 4 ans pour qu'elle vienne à l'église, quand on s'est mariés, et 8 ans pour qu'elle se fasse baptiser. Encore un multiple de 4. Incroyable. Mais voilà, le Seigneur me disait, sois patient, continue, etc. C'était pas simple, hein. J'avais envie d'avant de prendre la charrue et puis dire, allez, viens à l'église maintenant, arrête de faire, viens. Mais non, je sais que ça aurait été contre-productif. Et pourtant, il a fallu de la patience et je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui, elle est là. Amen. Amen. Alors, Maintenant qu'on sait que la patience dans l'épreuve, c'est voulu par Dieu, souvent, que ça dure, mais que plus ça dure que ça a de l'efficacité, mais que, bonne nouvelle, ça prend fin, la question qu'on peut se poser ce matin, c'est comment faire pour maîtriser au mieux cette patience dans l'épreuve ? Existe-t-il des méthodes concrètes ? Eh bien, la réponse, c'est oui. Et cette histoire nous montre quelques astuces concrètes pour, si vous vivez ce matin une épreuve où votre patience est mise à l'épreuve, pour pouvoir la vivre la plus sereinement possible. Je ne dis pas qu'on sera serein à 100%, ce n'est pas facile, mais que Dieu, en tout cas, et Jésus, à travers cet exemple, nous donne. La première, l'idée générale, surtout, c'est que Dieu nous invite, dans cette période, à ne pas être spectateur, mais être acteur. Pas spectateur, mais acteur. Et premièrement, comment ? En aspirant à une meilleure écoute et une meilleure confiance en lui. On le voit bien ici, dans cette situation et dans la façon dont Jésus le vit. Au début, il est dit donc que Jésus est envoyé par l'Esprit dans le désert. Moi, on m'envoie par l'Esprit, même si l'Esprit venait et disait « Geoffrey, va dans le désert pendant 40 jours », je me dirais, j'aurais moyen de me dire « un peu bizarre cette histoire quand même hein. ». Je ne sais pas ce qui se passe, moi je vais aller ailleurs. Je préfère aller, quitte à choisir, aller sur une belle plage plutôt que le désert. Non. Jésus, il aurait pu dire « Oh là, Dieu, mon Père, c'est bien tout ça, mais 40 jours dans le désert, t'es sûr que c'est une bonne idée ? » Je trouve ça un peu risqué quand même. Aujourd'hui, on dirait sans gourde, sans rien en plus, sans rien à manger. Dangereux quand même. Et pourtant, il y va. Pourquoi il y va ? Parce qu'il a confiance en Dieu. Et qu'il sait que s'il doit passer par ça, il ne va pas se rebeller et dire « Oh non !» Il sait que si Dieu l'envoie là-dedans, c'est que c'est bon pour lui. Deuxièmement, s'il y va, c'est pour un temps aussi où il sait qu'il sera à l'écoute. Un temps spécial. Quand on est seul dans le désert, on est seul avec nous-mêmes, on est seul avec Dieu. Donc il sait que ça sera vraiment un temps d'écoute et de partage avec lui. N'ayons pas peur dans ces temps-là de placer notre confiance en Dieu et d'essayer d'aspirer à une écoute. Et pour cela, je vais reprendre un exemple qu'on a vécu. Rita, je l'ai prévenu, comme ça je ne la prends pas par surprise, au groupe de maison. Rita, elle nous disait, chez moi, au-dessus, là, ils font n'importe quoi. Le soir, elle vivait une vraie épreuve, où sa patience était mise à l'épreuve. Ils font du boucan, ça m'empêche de dormir le soir. Ça m'empêche de vivre, même le soir. Et Pauline a une bonne idée, elle dit, Marita, pourquoi tu ne prends pas ce temps ? On va te ramener un casque, tu vas le brancher sur ta tablette, et tu vas vivre un temps où tu seras dans ta bulle avec Dieu. Tu vas écouter la louange. Et Rita nous a envoyé un texto une semaine après, qu'est-ce que tu as dit ? Je vais le faire pour elle. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour ces temps magnifiques que je passe avec lui ce soir-là. Des temps qui, à l'époque, étaient des temps où elle était angoissée, où elle était agacée, sont devenus des temps d'écoute et d'intimité avec Dieu. Amen. Amen. Elle a su transformer ce temps de patience en temps... Ils font toujours du bruit, mais on prie pour eux d'ailleurs, mais elle a su tirer bénéfice de cette période. Amen. Deuxième chose que ce passage nous montre, pour vivre le mieux possible la patience dans l'épreuve, Dieu nous invite à cultiver une bonne connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ici, on le voit, Satan vient et dit à Jésus, pour mettre fin, transforme ta faim un petit peu, transforme cette pierre en pain. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait pour lui répondre, pour résister à la tentation dans cette épreuve ? Il lui répond par l'inversé. Il lui dit après, c'est pas grave, regarde tous les royaumes, vas-y. Je te les offre. Pareil, il répond par un verset. Satan connaît la parole, il connaît la Bible, il sait qu'elle est puissante, donc il ne peut rien contre ça. Mais il a essayé de jouer là-dessus. Il s'est dit, la troisième fois, je vais essayer de le piéger avec la parole. Et il lui dit, jette-toi, parce qu'il est écrit dans la parole, il la connaît, que les anges te soutiendront. Et Jésus lui dit, non, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Si nous connaissons la parole, alors, dans ces temps d'épreuve, n'ayons pas peur de la proclamer comme Jésus le fait, et vous verrez que notre patience en sortira grandie. Amen. Je me souviens, quand j'étais petit, je trouvais que ça faisait vieux jeu. On allait à l'école du dimanche, on nous apprenait des versets par cœur, à la fin. Et moi, je me souviens, avec les copains, avec Raphaël, on disait « c'est pour les vieux, ça ». Et en plus, on en apprend assez la semaine à l'école, on n'a pas. Mais finalement, ça rentrait. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était bénéfique pour ma vie d'aujourd'hui. Parce que quand je vis des épreuves, ces versets-là, ils reviennent dans ma tête. Et quand je prie, je les proclame. Je les proclame. Et ça a toute sa différence. Ça fait toute sa différence. Amen. Amen. Occupe-toi de, de ce que des affaires de ton père et tout te sera donné en échange. Amen. Quand je vis un moment comme ça, je dis, Seigneur, je vais m'occuper de toi. Je ne vais pas me concentrer sur mes problèmes et je sais que tout me sera donné en retour. Amen. Amen. Donc n'ayons pas peur de lire la parole, d'apprendre des versets, de les proclamer parce que même l'ennemi le sait, c'est puissant. Même, et c'est d'autant plus dans ces périodes-là. Troisième chose que ici Dieu nous invite à faire dans ces temps de patience, c'est dans l'épreuve, c'est de tester une arme redoutable, le jeûne. Le jeûne. On voit ici Jésus, il était dans une période de jeûne. Et je ne sais pas si, on ne sait pas l'histoire, on ne va pas la réécrire, s'il avait été dans le désert, comme ça, juste pour un moment d'intimité avec Dieu, s'il n'était juste, voilà, passe 40 jours, tu ne jeûnes pas. Donc tu pars avec ton sac à dos, quelques provisions, bon, pour 40 jours, il faut prendre des non périssables quand même, quelques boîtes de conserve, qu'il n'y avait pas à l'époque. Mais on y va, est-ce que ça aurait été aussi efficace? Est-ce que Jésus en serait ressorti avec une telle puissance dans l'esprit? On ne sait pas, on ne peut pas réécrire l'histoire. En tout cas, ici, je pense que c'est ce qui a fait la différence. Jésus était dans une période de jeûne. Et ici, Dieu nous invite, je pense, à travers ça, à nous montrer que dans les temps de patience, n'ayons pas peur de passer par le jeûne. N'ayons pas peur de passer par le jeûne. Et moi, c'est, pour reprendre une histoire d'avant, Alice et JR s'en souviennent peut-être, mais je reparlais de Pauline, quand elle était venue à l'église, mais je me souviens un dimanche, Alice était venue me voir avec JR et Alice m'a dit, Jo, j'ai reçu un truc pour toi. Cette semaine, il faut que tu jeûnes pour ton épouse. Alors dans ma tête, je ne vous dis pas, bon, je peux leur dire aujourd'hui, parce qu'avec le recul, on en rigole, mais quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, j'ai jamais jeûné, moi. En plus, j'aime bien manger. Puis je dis, oh, j'ai tout fait pour mon épouse, je prie tous les jours pour elle, je fais tout, j'ai tout essayé. Pourquoi le jeûne? Qu'est-ce qui ferait la différence? Et puis j'ai quand même dit, oui, je vais le faire. Alors comme je leur ai dit que j'allais le faire, je l'ai fait. Et finalement, donc, j'ai jeûné. Je ne suis pas là pour me glorifier, parce qu'il est dit qu'il ne faut pas dire quand on jeûne, mais c'est pour vraiment vous encourager. Et je l'ai fait, j'ai fait une journée où j'ai testé le jeûne. Et puis je priais du coup, je disais, Seigneur, tu vois, je jeûne aujourd'hui. Donc, en plus, Alice, elle m'a dit qu'il allait se passer un truc. Je te prenais, tu vois, je me mettais devant. JR, il était derrière, il disait, oui. Et donc j'ai prié, et puis rien au bout de la journée, je commençais à avoir faim, je dis Seigneur, je ne fais pas tout ça pour rien, tu as promis, je suis là Seigneur. Et puis à un moment donné, je prends ma Bible, parce que j'ai une Bible j'étais dans ma salle de classe, j'ai une Bible au fond de mon armoire, je la prends, puis j'ouvre comme ça la Bible au hasard, alors je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais je l'ouvre comme ça pour essayer de voir, je tombe sur un proverbe, et ce proverbe-là reprenait une situation précise de notre vie, où on devait prendre une décision le soir par rapport à ça, et ça tombe dessus, et en fait, on allait prendre la mauvaise décision, selon la Bible. Oh, je regarde, je fais quoi? Je me souviens, j'appelle papa, je fais, papa, il est bien dit ça dans le proverbe, ça veut bien dire ça? Papa me fait, oui, ça veut dire ça. Ok, du coup, j'appelle Pauline, je dis, ma chérie, écoute, bon, je t'avoue, aujourd'hui, j'ai jeûné. Elle a dû dire, mon mari, il pète un câble. J'ai jeûné, parce que voilà, je lui explique, et je dis, j'ai ouvert la Bible, il est tombé ça, et la Bible dit ça. Comme par hasard, je l'ai ouvert au hasard. Et là, à partir de ce moment-là, non seulement moi, j'ai eu la crainte de Dieu dans mon cœur, mais Pauline l'a eu. Et elle a dit, c'est pas possible, c'est pas le hasard. C'est incroyable, on devait prendre la décision le soir. On l'a prise et je pense que ça a été aussi un des éléments déclencheurs dans notre vie à tous les deux, mais dans la sienne aussi par rapport à Dieu. Gloire à Dieu finalement. C'est une arme redoutable. Le jeûne, n'ayons pas peur de le dire. Alors le jeûne, comme le disait John Tressel, c'est vrai, à l'époque, c'était manger, parce que le plaisir qu'il prenait du temps de Jésus, c'était de se retrouver à table de manger. Aujourd'hui, on pourrait jeûner de plein de choses, les téléphones portables, la télé, on a tellement de choses aussi qui nous empêchent d'avoir une intimité peut-être avec Dieu. Donc, sentez-vous libre aussi par rapport à ça, mais voilà, testons cette arme redoutable, le jeûne. Amen. Dernière chose que Dieu nous invite à faire dans ces moments de patience dans l'épreuve, c'est de travailler notre sagesse et la maîtrise de nos émotions. Parce que souvent, la patience dans l'épreuve peut laisser place à l'impatience caractérielle. Je ne sais pas vous, mais dans ces moments-là, on devient fou, on pète des câbles. C'est vrai. Et moi, je vais vous confesser, parce que voilà, on est en famille, entre amis, j'ai des soucis avec ça. Vous savez, je suis enseignant, j'ai pu le dire au début. Toute la journée, ma patience, elle est mise à l'épreuve avec les enfants. Elle est mise à l'épreuve. Et j'ai honte, des fois, de rentrer le soir, que mon stock de patience est atteint, et que dès qu'il faut que j'ai un peu de patience avec mes propres enfants, j'en ai plus. Et du coup, on s'énerve, on leur crie dessus, on s'agace. Cette semaine, quand j'ai fait les devoirs avec Alix, je m'énervais un petit peu. Elle devait écrire le même mot bizarre. Elle avait 4 essais. Bizarre avec 2 S. Chérie, bizarre ou bizarre? Puis après, elle met un S. Puis après, elle ne met plus qu'un R. Oh punaise, j'étais fou. J'ai plus de patience. Et je m'énerve sur le coup. Mais je m'en veux après. Je me dis, punaise, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Pardonne-moi. Parce que j'ai usé toute la patience avec mes élèves. Je ne suis même pas capable d'en avoir du coup pour mes propres enfants. Et ici, on le voit que Jésus, dans ces temps d'épreuve, où sa patience est mise à l'épreuve, ses réponses, au bout de 40 jours sans manger, sont tellement pleines de sagesse, tellement pleines de maîtrise dans ses émotions. Il aurait pu dire à Satan, vous vous souvenez, mon dernier message, hypercute, poum, allez, va-t'en. Non, il lui répond, il prend le temps de lui répondre, avec sagesse et avec la puissance de l'esprit. Incroyable, incroyable. Quel exemple ici, il nous donne dans cette situation. Que Dieu nous aide à maîtriser nos émotions, notre patience, que notre patience ne mène pas à de l'impatience caractérielle. Alléluia. En tout cas, ça va être une des prières pour le temps qui va suivre. Je suis arrivé au bout, un dernier verset. Les épreuves produisent la patience produit de l'expérience et l'expérience produit de l'espérance. Romains 5, 4. On voit que le point de départ, c'est la patience, n'est-ce pas? Voilà. J'avais vraiment envie qu'on puisse prier pour ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes senti interpellé ce matin, peu importe ce que vous vivez dans votre vie. Moi, j'ai envie qu'on prie pour que je puisse avoir plus de patience, que mon stock de patience, j'en garde un peu pour la maison, pour mes enfants et pour ma femme. Elle a dit « Amen » derrière son masque. Je l'ai entendu. Non, j'ai commencé en l'embêtant, donc je voulais terminer en l'embêtant. Voilà, mais vraiment, non, je blague, mais c'est vrai que c'est important. Donc si vous sentez interpellé vraiment, que vous puissiez vous lever ce matin, si on peut faire juste un petit fond musical. Et puis on va prier pour ça, prier pour ceux qui vivent des moments difficiles, où leur patience est mise à l'épreuve, que Dieu puisse leur redonner de la force, que toutes ces choses qui ont pu être dites ce matin ne soient pas simplement des choses écrites, dites, mais des choses qu'ils puissent vivre dans leur semaine à venir. Et puis aussi prier pour ceux qui, comme moi, ont des fois leur stock de patience qui est usé et que ça laisse place à de l'impatience, peut-être caractérielle, l'impulsivité. Et que le Seigneur puisse les toucher aussi. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te prier, Seigneur, ce matin, et te remercier, mon Dieu, pour ta bonté, pour ta fidélité. Te remercier, Seigneur, pour ces exemples. Merci, Jésus, pour qui tu es. Parce que tu n'es pas simplement celui qui est venu sur la terre, qui est mort sur la croix pour nos péchés, et qui nous donne, Seigneur, parce que si nous reconnaissons comme notre Sauveur et Seigneur, alors nous avons accès au Père, à cette vie éternelle. Mais Seigneur, nous avons déjà cette vie à faire ici, Seigneur. Et notre vie sur terre est faite, Seigneur, d'épreuves, parce que toi aussi, Jésus, tu as vécu des épreuves. Mais mon Dieu, tu nous as montré à quel point tu pouvais être patient. Que Seigneur, ce matin, nous puissions, dans les jours à venir, dans notre vie, avoir cette patience divine, cette patience non pas simplement vertu de mère de toutes les vertus humaines, mais quelque chose de plus fort encore, parce que nous t'avons dans notre cœur. Alors je te prie, Seigneur, que tous ces points, Seigneur, on puisse être travaillés, Seigneur, et les mettre en pratique, Seigneur, dès cette semaine ou dans les mois à venir, Seigneur, quand on sent que notre patience a atteint ses limites. Mais Seigneur, je veux également prier ce matin pour mes amis, Seigneur, qui sont dans la difficulté, Seigneur, qui font parfois preuve d'impatience, mais dans le sens impulsivité. Je te prie pour mon cœur, je te demande pardon, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, quand je manque de patience pour mes enfants, Seigneur, alors que j'en ai pour mes élèves. Mais mon Dieu, je te prie vraiment de gonfler mon stock de patience, Seigneur, et de me reprendre comme tu le fais, Seigneur, mais tu nous reprends toujours dans l'amour, et je te remercie pour cela, Seigneur. Et que tu puisses nous aider, Seigneur, à faire en sorte que ce point sur notre caractère, Seigneur, puisse grandir, s'améliorer, être à l'image de ce que tu es, Jésus. Amen, mon Dieu. Amen. Amen.